Bonjour, je vais me présenter, Olivier Petit. J'ai formation d'origine en sciences politiques et après un doctorat en urbanisme. J'ai enseigné en Corée du Sud et maintenant je suis un professionnel. Donc j'ai travaillé sur le projet que vous allez voir, la ville nouvelle de Sidi Abdallah, en tant que directeur de projet pour une société coréenne. On a travaillé avec des Français également. Donc je vais vous situer un petit peu Sidi Abdallah, parce que c'est déjà la localisation est intéressante. Elle est à côté, elle est à 20 km, 25 km du centre d'Alger, sur la côte ouest. Elle est donc très bien desservie par des voies routières. Le projet, donc, c'était 3 000 hectares de zones à urbaniser, plus 4 000 hectares de zones vertes, comme vous pouvez le voir autour, pour un projet de 200 000 habitants. Donc, c'est un projet qui était lancé par le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement algérien, financé par le gouvernement algérien. Il y a eu l'étude donc du plan d'aménagement qui a duré 10 mois. Et aujourd'hui, donc le projet est toujours en cours et il y a une seconde phase, c'est la phase de viabilisation, donc faire les routes et tous les VRD pour la ville, qui est aussi réalisée par une société coréenne. Donc la réalité physique rapide du site, vous pouvez voir ces sites avec du relief, avec des ouèdes, c'est une zone qui est juste avant donc la grande plaine fertile autour d'Alger. Donc c'est des zones de collines. C'est un territoire aussi qui est habité. Il y a 4 villages donc sur ce territoire, et des villages historiques qui sont surtout deux très, très typiques et très caractéristiques de l'architecture française coloniale. Donc ils ont un cachet patrimonial aussi pour les autorités algériennes. Ces villages de Maelma et de Ramania, c'est tout de même 30 000 personnes qui habitent donc sur le territoire du projet. Voilà le plan d'aménagement. Donc le plan d'aménagement qui était le résultat de contraintes aussi données par le ministère de l'Aménagement. Il voulait un parc central de 450 hectares. Donc, que vous pouvez voir au centre, qui est une zone où il y a les plus fortes dénivelées. Il y a une ligne de crête, c'est sur celle-ci que la plupart donc, du projet va se structurer. Le projet était fait en plusieurs phases. Il y avait une phase particulière qui était la requalification des villages existants. Donc ça, c'est une équipe française qui s'en est occupée. Et aussi pour après la coordination globale du projet, c'est également une équipe française qui s'en est occupée. Donc c'était intéressant de voir de travailler avec l'approche coréenne, qui est une approche vraiment néolibérale, c'est-à-dire extrêmement tournée vers tout ce qui est économique et la rentabilité du projet, et les contraintes de enfin ce que voulait plutôt donc le ministère de l'Aménagement du Territoire. Il voulait aussi qu'on fasse attention à l'écologie, aux espaces verts, et aussi aux considérations que les experts français ont mis en avant, qui considéraient aussi ça va jusqu'au traitement des déchets, ça va à la gestion de l'eau, ça va au mode de transport collectif, ça va à des questions de densité, de refus du mitage, etc., etc. Donc des considérations qui entrent dans des enjeux de ville durable, comme ça a été aussi abordé ce matin lors de la précédente présentation. Donc les principes environnementaux, bon, c'est les grandes lignes. Alors, comme ça a été présenté ce matin, bien sûr, beaucoup de parcs, des parcs à plusieurs échelles, ce parc central, des parcs de proximité, des trames vertes pour permettre justement une altération minimum là, pour par exemple la faune et la flore. Aussi les voies piétonnes, les voies cyclistes qui n'ont pas une réelle réalité par rapport à la situation sociale algérienne, parce que aujourd'hui en Algérie, le symbole de la modernité, c'est la voiture. Et si on n'a pas de voiture, ça veut dire qu'on est un pauvre. Et les gens donc ne considèrent pas que comme étant un bénéfice d'aller prendre des transports en commun ou marcher, ce qu'ils font de toute façon aujourd'hui, ou faire du vélo. Donc là, il y avait aussi des choses comme ça qui sont très difficiles à prendre en compte et à privilégier, parce que les regards en fait sont pas les mêmes entre les Coréens, les Français et les Algériens sur ces principes qui tournent autour de la durabilité du projet. Bon, d'autres principes environnementaux, comme il y a énormément de projets de tramway aujourd'hui en Algérie. Hein. Chaque ville d'Algérie est en train de développer son tramway. Entre autres, là, il y a la phase 2 du tramway aussi à Alger qui va être lancée. Là, donc, un projet de tramway qui est censé desservir 53% de la population. Donc, c'est deux axes quand même assez peuplés. Et un projet là typiquement coréen, ils ont dit donc on va faire effectivement, vous voulez qu'on vous fasse de la ville développement durable ou durable avec des principes écologiques, environnementaux, etc. On va le faire. Donc ils ont des technologies très avancées, par exemple pour la gestion des déchets, pour la gestion de l'eau, et aussi ils ont dit mais on va aller plus loin, on va essayer de faire une ville aussi technologique. Et technologique, on va aussi appliquer donc à cette durabilité, c'est la U-City, c'est quelque chose qui existe déjà en Corée. Hein. Il y a des projets, des villes de 100 000 habitants où il y a des services sociaux et des services publics, des services à la personne, et des services aussi de gestion, par exemple des choses très, très, très terre à terre, comme gestion des espaces verts avec le contrôle de l'eau, la gestion des catastrophes naturelles, qui sont entièrement gérées par des systèmes informatiques qui sont à l'échelle de la ville. Ça marche, ça fonctionne. Hein. J'ai travaillé suffisamment longtemps en Corée et habité en fait dans une de ces villes. Et donc ils étaient prêts à exporter aussi ce type de technologie pour l'Algérie. Donc ça c'est le Grand Parc. Alors vous pouvez voir, bien sûr, il y a une reconstitution complète de ce qu'est l'espace naturel du Grand Parc. Là aussi, on est on refait les espaces naturels. Donc là aussi, ça pose des problèmes parce que à l'opposé, je vais m'arrêter sur le principe coréen d'abord. Donc c'était rentabiliser le projet parce qu'ils ont un système très très fort économique de villes nouvelles. Ils ont une très très grande expérience aujourd'hui dans le monde. Je crois que les villes nouvelles, c'est eux les plus grands experts de la ville nouvelle et qui est un vrai enjeu pour nous, pour l'Europe aussi, parce que dans les années à venir, il va y avoir des multitudes de projets de villes nouvelles dans tous les pays du monde, et en particulier dans les pays émergents. C'est déjà le cas, je le vois moi en tant que professionnel. Et ils ont créé un système où ils ont mathématiques, où ils se sont rendus compte que sur un projet, quel que soit le projet, à partir de 40-45, en fait, ils l'ont découpé en trois grands sous-domaines. Il y a tout ce qui est logement, bureau, commerce, qui doit faire minimum 40-45%. Et à partir de là, tout ce qui est route, espace vert, équipement, tous les autres éléments constitutifs de la ville, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le projet est rentable économiquement et on gagne de l'argent. Et c'est ce qui compte en fait pour eux. C'est une espèce de grille comme ça qui permet une grande liberté après à ceux qui vont s'en emparer si on respecte ces 40-45%, parce que là, ils créent leur rentabilité du projet. Donc, une excellence technologique et multifonctionnelle parce que il y avait plusieurs clusters. Il y avait des clusters de pharmaceutiques avec déjà, par exemple, Sanofi est en train de s'y installer et de créer la plus grande usine de médicaments de toute l'Afrique du Nord. Donc, c'est un cluster aussi d'éthique, des technologies de l'information et de la communication avec des investissements coréens. Il y avait aussi donc une durabilité environnementale et écologique avec le maillage vert, les zones de protection, cette idée de quartier, de parcours et de gestion aussi par cette technologie de tous ces espaces verts. L'offre résidentielle, ils ont aussi essayé de la faire à plusieurs niveaux, à la fois pour de l'habitat plus social jusqu'à de l'habitat très haut de gamme, donc avec des différents quartiers. On n'est pas Faut pas penser que c'est une ville que pour les riches, ça c'est pas le cas. Déjà, le gouvernement algérien ne l'aurait pas accepté. Et donc, les réseaux de transport, ils ont proposé donc un réseau de transport aussi en commun à l'origine du projet et pas en disant ça va se faire plus tard. Donc, la rentabilité du projet, comme je vous le disais, c'est voilà les trois grands domaines, le domaine public, l'équipement public et le développement foncier. Là, pourquoi ils ont mis 57% au lieu de 45%? Parce que comme ils ne connaissaient pas, ils ne pouvaient pas faire une analyse fine du marché foncier parce que le pays n'est pas encore suffisamment normé sur ces questions-là par rapport à ce qui est la Corée ou des pays avancés, ce qui fait qu'ils se sont pris en fait du foncier de garantie pour la rentabilité. Pour les équipements publics, ils sont légèrement en dessous en fait des standards. Qu'ils développent ailleurs. Et pour le domaine public, là on est à peu près dans la norme. Donc en fait, là où ils ont diminué le plus les pourcentages par rapport à leur grille, c'est un peu sur le domaine public et plus particulièrement sur les équipements publics. Alors voilà la simulation 3D du projet. On voit bien bon, l'espace central, on voit tout le nord qui est plutôt urbanisé, qui est du côté d'Alger. On est à 4 km, on est déjà dans la banlieue d'Alger. Et du centre, on est à 20 km. Donc, en Corée, cette idée de ville durable et d'environnement, c'est uniquement un des aspects de l'offre urbaine coréenne. Parce qu'eux, ils ont cette grille, et après, ils prennent une boîte à outils et ils prennent ce que veut le client. En réalité, c'est une démarche très commerciale, très économique, pure. Et si vous voulez du durable, ben on vous fait du durable, parce qu'ils ont des technologies très fortes dans ce domaine-là. Si vous voulez enfin de la technologie, on vous en fait. Si vous voulez du mix, on vous la fait. Si vous voulez de la ville industrielle, on vous la fait. Si vous voulez un mélange ville industrielle-loisir, on vous le fait. Enfin, après. C'est véritablement une boîte à outils. Et c'est comme ça que les projets de ville nouvelle se vendent à l'échelle internationale aujourd'hui. Et ils ont une intégration aussi très très forte des acteurs. Ça va des accords gouvernementaux qui ont été passés en 2004-2005 avec le gouvernement algérien. Donc une entité publique qui est le Korea Land, c'est London Housing, mais c'est Korea. En fait, c'est l'organisme qui s'occupe des développements fonciers coréens et aussi à l'international. Et c'est eux qui ont créé cette grille sur laquelle les sociétés d'ingénierie, les architectes et les sociétés de construction s'appuient. Et donc, ils ont créé cette espèce de package qui, après, est capable d'aller partout dans le monde à différents niveaux. Et donc, ils vont garantir, ils vont sécuriser leur développement et les projets de ville nouvelle en faisant une offre qui va de l'institutionnel avec un soutien pour le développement de ce type de projet, avec les experts techniques et avec les sociétés de construction. Donc, on est vraiment dans une offre totale et complète. À l'inverse, bon, ben, les orientations françaises, j'ai travaillé aussi pour le programme Histoire et Évaluation des villes nouvelles sous le gouvernement Jospin, donc c'est quelque chose que je connais relativement bien. J'avais fait d'ailleurs un rapport sur les villes nouvelles françaises dans le monde en 2004 ou 3. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi en tant que professionnel, aujourd'hui je travaille pour une société française hein, qui est la filiale d'ingénierie en fait de la Caisse des dépôts et consignations. On est encore à une dissémination des acteurs, un manque d'intégration qui nuit sur le plan international à la création d'une offre urbaine alternative qui pourrait être plus à même de mettre en avant des principes différents de ceux que les Kéroéens développent réellement aujourd'hui. On est encore, je trouve, beaucoup trop dans une étape de création de rapports et de développement de rapports, le rapport Attali avec des choses très intéressantes, par exemple, comme les 10 écopolices qui sont à une échelle juste en tant que professionnel et qui intègrent les technologies et aussi les enjeux donc de technologies vertes. C'est très intéressant parce que ça, c'est des choses qui sont aussi qui pourraient être très bien perçues sur le marché international. Vous avez compris depuis le début, je ne me positionne pas sur ce qu'on peux véritablement faire en France, mais j'essaye de mettre en perspective en fait les atouts que la France et les acteurs français et la réflexion dans ces domaines de la ville durable peuvent avoir les Français à destination de l'étranger. C'est un petit peu la nature de mon intervention. Et après, bon, le Commissariat général du développement durable, il y a un sous-axe qui traite également de la ville. Mais je trouve que c'est des choses qui sont trop ténues, trop fragiles aujourd'hui pour avoir une vraie consistance sur le marché international. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Hein. Production de rapports et de comités plus qu'à celle de projet, manque d'intégration. Il y a des moyens financiers, mais comme il y a une dissémination des acteurs, finalement, ces moyens financiers ne sont pas assez concentrés sur des actions, donc on a un sentiment de saupoudrage. Et bien sûr, une dimension opérationnelle insuffisante sur le territoire français, parce que la ville nouvelle n'est plus une actualité en France, alors qu'elle est une véritable actualité à l'échelle mondiale. Donc, une conclusion. Comme je vous l'ai dit, le modèle coréen qui va une offre globale avec la boîte à outils, qui s'appuie aussi sur l'expérience nationale. Lorsqu'on voit par exemple les appels d'offres, la façon dont ils répondent, c'est un des seuls pays au monde qui est capable de dire dans les 10 dernières années, nous avons fait sur notre territoire 18 villes nouvelles. Et ça, c'est très très fort et c'est très convaincant pour le client algérien, saoudien ou quel qu'il soit. Et à l'inverse, le modèle français, il y a une démarche environnementale à plein de niveaux. Aujourd'hui, c'est un aussi des niveaux. Mais il y a une absence claire, justement, de visibilité internationale de tout ce qui est fait aujourd'hui sur les différents points en France. Et aussi, on a une difficulté des échelles. Vous voyez, par exemple, ce matin, on parlait des écoquartiers. Je notais, c'est 80 hectares, 4000 habitants. Ça, sur le plan international, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est pas suffisamment... C'est pas à l'échelle. Donc, Sidi Abdallah, il y a plusieurs contraintes. C'est l'approche minimale de la part du ministère de l'Aménagement du Territoire qui, lui, en fait, poussait et freinait des deux pieds en disant « ne touchez à rien ». Mais toucher à rien, ça veut dire en même temps « pourquoi on veut faire une ville de 200 000 habitants si on doit toucher à rien, c'est pas possible ». C'est manque de moyens humains et opérationnels parce que les gens n'ont pas forcément la formation adéquate ou ne sont pas du tout formés dans le domaine adéquat sur le plan de l'urbanisme et aussi sur le plan, bien sûr, de tout ce qui est question environnementale. Il n'y a pas de support, il n'y a pas d'indicateur construit en Algérie aujourd'hui. Donc, ministère de l'Environnement, mais ce n'est qu'un mot. C'est un outil marketing pour le ministre Terre et plus particulièrement pour le ministre qui va dans toutes les conférences internationales mais qui joue finalement de ces belles images et de ces projets en cours mais qu'il ne maîtrise absolument pas. Donc il y a une maîtrise vraiment incomplète de tous ces projets. Et aussi il y a une absence de réflexion, ça c'est peut-être le plus grave, justement sur le social et le socio-économique. Des potentiels de ces lieux parce qu'il y a une agriculture traditionnelle qui est très, très proche d'une agriculture biologique mais sans toutes les contraintes et toutes les normes françaises. Elle se fait naturellement et avec des gens qui ont du savoir-faire on mange très très bien en Algérie parce que c'est justement des produits qui sont pas du tout traités ou moins traités et qui ont encore justement cette méthode traditionnelle d'agriculture avec les habitants aussi, ces 30 000, il n'y a eu aucune politique et aucune alternative. Qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas. Et c'était pas prévu que dans les appels d'offres, on ait un travail sur les populations et ce que doivent devenir les populations. Donc ça aussi, c'est un problème très, très grave. Ce qui fait que on est vraiment... Là, le thème de cet axe, c'est donc la justification. Donc là, on est vraiment dans la justification par l'écologie, par le développement durable, par la ville durable, de quelque chose qui n'est absolument pas maîtrisé à tous les volets, à tous les niveaux. Donc c'est là où il faudrait développer un volet formation, qui est en train de se faire un peu avec certains gouvernements, le gouvernement français, le ministère de l'Aménagement a des conventions, mais bon, c'est quand même très limité. Une intégration des compétences pour arriver à faire des offres alternatives à des pays qui sont très structurés comme la Corée. Et aussi, je pense que ça c'est très important, réfléchir à la possibilité d'aller dans notre propre pays développer des projets d'une certaine échelle avec des moyens financiers pour qu'ils deviennent véritablement exemplaires pour l'approche internationale. Pour qu'on n'oublie pas qu'on se frotte aussi à la concurrence qui n'est pas coréenne, hein, elle est aussi japonaise et elle est aussi d'autres pays. Maintenant, c'est l'émergence de la Chine, bon, qui est encore moins développement durable parce qu'ils n'ont pas cette complexité des outils comme la Corée l'a fait depuis 35 ans. Ils font des villes nouvelles. Et ils ont un maillage tellement complet de vie nouvelle qui est assez impressionnant. Et bien sûr, revoir les procédures d'appel à contribution où énormément de volets ou appels d'offres ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire les volets sociaux, les volets justement d'économie liés à la situation, à l'environnement, où tous ces éléments-là ne sont ne, ne En fait, le client considère que ça va lui faire perdre du temps et de l'argent, donc il ne va pas l'insérer. Et ça, c'est des choses que je retrouve aussi. Aujourd'hui, je travaille en Arabie Saoudite, et je retrouve ce même type de. Et donc, surtout le Golfe, et on retrouve tous ces types de défauts dans ces pays-là également.
Merci.
Merci.